Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Micro Rebelle Hebdo. Cette semaine, nous allons parler cinéma, car nous avons l'interview de la réalisatrice du film Fadjara, qui est sur la jungle de Calais. La réalisatrice s'appelle Isabelle Grenet et elle est venue présenter son film au lieu autogéré de Liévin, le Lag, début mars 2017. Et à cette occasion, Micro Rebelle et moi-même, nous en avons profité pour faire une interview où elle revient sur son parcours, sur le parcours du film, le tournage, le montage et son modèle de diffusion, car c'est un film qui n'est diffusé qu'en ciné-débat. Il n'y aura pas de sortie en salle pour Fadjara. Et bien voilà, je vous laisse avec l'interview d'Isabelle Grenet, réalisatrice du film Fadjara. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain reportage sur Micro Rebelle Hebdo. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce soir au Lag, il y a la projection de Fadjara, un film que tu as réalisé. Alors, est-ce que tu peux nous parler pour Micro Rebelle du tournage, comment ça s'est passé et d'où est venue cette idée d'aller filmer la jungle de Calais?
Bonjour, merci de me recevoir. Donc j'ai réalisé Fadjara sur un long cours. Je suis arrivée la première fois dans le bidonville à Calais, c'était en septembre 2015, et j'en suis repartie fin octobre 2016. Pourquoi j'ai tenu à intervenir avec mon appareil photo dans le bidonville? Parce que je sais de par mon expérience que bien souvent, malheureusement, les images que nous renvoient les médias sont tronquées, voire manipulées. Et donc du coup, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de citoyenne d'aller là-bas auprès des exilés et d'une part surtout être solidaire avec eux, c'est-à-dire bien les aider dans le quotidien le plus possible, dans les cuisines solidaires par exemple, et aussi tourner des images pour les retranscrire, donc du coup un an et demi après, par l'intermédiaire d'un film documentaire.
Concrètement, comment ça s'est passé le tournage? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as vécu au quotidien?
Le tournage, il faut s'imaginer que se remettre dans le cadre, au départ c'était pas facile du tout. Parce que bien sûr que ces personnes-là qui survivaient dans le camp ne voulaient pas être prises en photo ou alors être filmées. Donc nous avons instauré un climat de confiance et de respect mutuel. Et une fois que les gens savaient qui j'étais, ce que je faisais et pourquoi j'étais là, que j'étais là pour porter leur parole, ça a été beaucoup plus facile, mais ça n'a pas été facile tous les jours quand même, parce que tout le monde ne me connaissait pas, bien sûr. À la fin, on était à peu près 10 000 personnes dans le site. Mais quand même, des fois, j'ai un souvenir, notamment un matin où j'étais partie faire quelques photos des containers. Et donc j'étais accroupie sur une butte et puis on me distinguait pas et il y a une personne qui est passée et qui m'a fait un grand coucou de la main et qui m'a dit coucou Isa. Voilà, donc c'était une petite anecdote, pour dire que j'étais bien acceptée, qu'il y avait pas de souci parce que les gens me connaissaient et ils savaient que j'étais là aussi pour aider, que je faisais pas partie de ces journalistes qui arrivaient à 14h le dimanche après-midi et qui repartaient à 16h pour livrer leurs photos à leurs médias.
Tu as parlé d'un tu as parlé d'un acte citoyen. Avant de venir à Calais, est-ce que tu connaissais déjà le problème, enfin le problème, entre guillemets, de la migration à Calais, ou tu en avais une connaissance qu'à travers ce qu'on pouvait lire et voir dans les médias ?
Je me suis intéressée à la crise migratoire avant ces gros soucis qu'il y a eu, notamment en France. Mais bon, j'étais ailleurs sur un autre terrain de lutte. Donc, j'étais quand même accaparée par ce que je faisais avant, mais j'avais toujours en tête cette crise migratoire. J'ai grandi au Gabon, moi. J'ai passé une dizaine d'années là-bas. J'ai aussi voyagé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ce qui fait que j'étais naturellement portée par l'Afrique que j'ai au fond de mon cœur. Et voilà, ça s'est fait naturellement.
Pendant l'année que tu as passée sur la jungle de Calais, tu vivais là-bas ou t'avais trouvé un logement sur Calais ?
Non, je vivais dans le bidonville, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que les gens qui survivaient dans cet endroit m'ont accepté, parce que je faisais partie des leurs. Et tu me demandais comment ça s'est passé le tournage. Eh bien, bien souvent, la nuit, il y avait des affrontements avec les forces de l'ordre. Et je disais à mes camarades exilés, si jamais il y a un souci, à 4h, 5h du matin, ou plus tard, ou plus tôt, ben, ils savaient où je dormais, et ils venaient me réveiller, ils venaient frapper à la porte, et ils me disaient, Isa, 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 réveille-toi, réveille-toi. Et du coup, il m'accompagnait sur les lieux où il y avait des affrontements et il me protégeait pour que je puisse tourner des images.
Alors après avoir passé un an à tourner, à enregistrer des images, comment ça s'est passé le montage ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce que tu as enlevé ?
Comment s'est passé le montage ? Alors, je vais vous raconter l'histoire du montage de Fadjara. Donc, du coup, moi, j'ai aucune espèce de compétence en montage. Et je me suis retrouvée avec des heures et des heures de rush sur un disque dur dans mon ordinateur. Et du coup, j'avais tout ça et je savais pas comment faire. C'était un vrai souci pour moi. Et j'ai lancé un appel qui a été entendu. Et donc, du coup, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui est étudiante en master à Toulouse dans cette discipline, et donc qui s'est proposée de se joindre à moi dans le projet de Fadjara. Et donc, du coup, elle s'appelle Alexia Cardona. Et grâce à Alexia, on a pu monter Fadjara en collaboration. Donc, évidemment, elle a la technique, mais aussi avec son regard de citoyenne. Et moi, à ses côtés, donc c'était un véritable échange entre Alexia et moi, parce qu'elle elle avait donc son regard. Moi, j'avais le mien et nous étions l'une et l'autre à l'écoute.
Thank you.
Vous venez d'écouter Mostar du groupe Disparition sur l'album Palm in Mirror, et l'interview de la réalisatrice du film Fadjara, Isabelle Grenet, reprend maintenant. Micro Rebelle Hebdo, c'est tous les mardis à 15h sur Radio PFM 99.9 et sur internet microrebelle.fr. La suite de votre reportage, c'est maintenant. Alors, moi, j'ai pas vu le film, mais... Dans tes heures et des heures de rush, est-ce que c'est pas difficile de sélectionner telle ou telle séquence? Qu'est-ce que, sans raconter tout le film aux auditeurs, auditrices de Micro Rebelle, qu'est-ce que tu as voulu raconter et du coup, qu'est-ce que tu as gardé pour raconter Fadjara?
Alors, pour répondre à ta question précisément, c'est très difficile. Parce que il y a des rushs qui me tiennent particulièrement à cœur. Et puis qui, du coup, n'ont pas trouvé leur place dans Fadjara. Et grâce à Alexia, j'ai pu dépasser ça et me dire, OK, ça, c'est, ça te, il te plaît, il te tient à cœur parce que tu as vécu tel moment, tu as vécu cet instant intensément, mais il a pas sa place. Et j'ai écouté Alexia et avec son regard de l'extérieur, du coup, je suis passée par-dessus. Et sinon, Fadjara, que raconte-t-il? Eh bien, il raconte l'histoire du bidonville sur un an. C'est un véritable témoignage au long cours, du coup. Donc, on rentre dans le bidonville, on fait connaissance avec lui. On se rend compte aussi des conditions de survie, parce que c'est Calais. On est dans le nord Pas-de-Calais et bien souvent, on a eu froid, surtout l'hiver. Voilà, on voit tout ça et ensuite on fait connaissance avec des jeunes hommes qui témoignent et puis du coup on voit aussi les expulsions, donc l'expulsion de la zone des 100 mètres, de la zone sud, les violences policières. Et par contre, opposé à tout ça, ces conditions de survie très difficiles, les expulsions, on est au cœur de la solidarité. Parce qu'il faut bien savoir que s'il n'y avait pas eu toute cette solidarité auprès des exilés, ces personnes-là n'auraient pas pu survivre. C'était juste pas possible. Parce que l'État français a fait le minimum. D'ailleurs, il a été même condamné à un moment donné parce qu'il n'y avait pas suffisamment de points d'eau et de toilettes. Il a fait appel et il a perdu. Et grâce à la solidarité des citoyens et des citoyennes qui intervenaient de toutes parts, beaucoup de Britanniques d'ailleurs, il y avait environ 80% de Britanniques qui étaient bénévoles sur le bidonville la journée et à l'extérieur. Notamment à l'auberge des migrants où je suis allée tourner des séquences. Voilà, cette solidarité qui était incroyable. Et puis, j'ai aussi rencontré des photographes à qui je tire mon chapeau parce qu'ils sont venus donc avec leur appareil photo, mais aussi avec un cœur gros comme ça. Et je pense notamment à Julien Petitnom qui est arrivé un jour avec trois vélos pour un petit garçon, donc qui a eu l'embarras du choix et des vêtements. Et puis je pense aussi à Merej qui est arrivé avec du bois pour que les exilés puissent se chauffer et se faire à manger, et avec des vêtements, et lui aussi avec sa solidarité chevillée au corps. Et voilà, donc j'ai rencontré des très belles personnes.
Tu parles beaucoup d'émotions, de ressentis par rapport à ça. Alors justement, au bout d'un an, comment vois-tu ton regard sur la situation migratoire? Est-ce que tu sens qu'il a changé? Et s'il a changé, sur quelle chose il a évolué?
Alors il a évolué, à mes yeux, en pire au niveau des politiques. Aujourd'hui, en Hongrie, cet État prévoit de construire des murs, enfin qui sont déjà en place, mais d'électrifier donc ces grillages et ces fils barbelés. Ensuite, en septembre 2016, donc il y a eu un mur en construction qui fait plus d'un mètre, un kilomètre de long à Calais. Donc voilà, aujourd'hui aussi, la maire de Calais, Natacha Bouchard, a pris un arrêté municipal pour interdire la distribution de nourriture auprès des exilés. Donc oui, bien sûr que ça a changé, mais ça n'a pas changé en bien. Je me rends compte que tous les politiques font ce qu'ils peuvent de toutes leurs forces pour déjà nier cette crise migratoire, mais en plus tous ces pauvres gens qui arrivent chez nous, donc qui sont chassés de leur pays ou qui décident de le quitter, eh bien ne sont pas considérés comme des êtres humains.
On va aborder le thème de la diffusion, puisque tu le diffuses de manière originale. Tu le diffuses quand Ciné-Débat. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Oui, donc Fadjara est un film documentaire que j'ai réalisé et produit, ce qui veut dire que je ne suis pas passée par une maison de production et qu'il n'a pas de visa d'exploitation. Donc ça, c'était un choix déterminé à la base, parce que je ne voulais pas vendre mes rushs et vendre mon travail à une maison de production. Ce qui implique, par ailleurs, un gros travail auprès de mes camarades me soutiennent beaucoup parce que, comme c'est pas produit, c'est pas diffusé dans des salles nationalement. Ça, les projections de Fadjara sont dans des lieux comme ici aujourd'hui, au lieu autogéré à Liévin, ou dans des salles de cinéma, mais qui sont portées par des orgas ou des assos, style RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, la Ligue des Droits de l'Homme, la LDH, ATTAC. Et du coup, le but aussi, à travers ces projections débats, c'est de se servir de Fadjara comme un outil. C'est-à-dire que à l'issue de la projection, qui a pu avoir lieu donc grâce à un réseau solidaire, nous échangeons, nous débattons et nous informons par le biais donc de RESF, la LDH, qui elle, ces organisations là ont un vrai travail technique sur le terrain, et les gens qui viennent aux projections de Fadjara ne connaissent pas toute la problématique migratoire et du coup s'informent. Et aussi j'ai remarqué que certaines personnes qui venaient là comme ça un petit peu en curieuse pour s'informer, bah du coup, à l'issue de la projection et à la suite des échanges, se rapprochent des associations style RESF, qui s'occupent par exemple des mineurs isolés étrangers, et se disent bah tiens, moi je suis ok pour aller les aider, pour les soutenir dans des cours de maths ou les recevoir la journée pour voilà, avoir un lien chaleureux.
Tout au long de l'interview, tu as beaucoup évoqué la solidarité sur ce que tu as vécu sur le camp, avec les gens qui ensuite s'intéressent aux associations. C'est important pour toi, la solidarité en général ?
Mais c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Pour moi, la solidarité, c'est une valeur, c'est la valeur que je porte au fond de moi-même. Et puis c'est tout, quoi. S'il y a pas de solidarité, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste rien. Tant auprès de toutes ces pauvres personnes qui ont dû quitter leur pays, mais même dans notre quotidien à nous, si on n'est pas solidaires les uns les unes avec les autres, eh bien le monde tourne mal, quoi.
Une dernière question. Fadjara, ça veut dire quoi ?
Fadjara, c'est un mot soudanais qui retentissait parfois, au petit matin d'ailleurs, à l'aube, qui était crié par des personnes dans le bidonville. Et lorsque un camarade avait réussi à passer la frontière, voilà, qu'il est arrivé en Angleterre. Et donc du coup, il prévenait ses copains qui étaient restés dans le bidonville, et il lui disait bon ben ça y est, je suis passé. Et ça voulait dire ça, il y est arrivé, il a réussi à passer de l'autre côté. Et c'est aussi un mot qui était crié, Fajara, lorsque, par exemple, il y avait des actions de sabotage. Je me souviens d'un... D'ailleurs, on voit cette séquence dans Fajara, c'était à 3h du matin. Donc, du coup, les copains étaient venus me chercher. Isa, viens, il se passe quelque chose. Et je dois dire aussi que ben, pour être prête à filmer ces images, moi, je dormais habillée. Je dormais avec mes chaussures et bien souvent je dormais avec mon appareil photo autour du cou parce que ben on n'avait pas les lecs et donc du coup le temps de mettre ses chaussures, de trouver tous ses vêtements et l'appareil photo, c'était trop tard. Et donc pour en revenir à ce cri de sabotage, c'est les gars, ils étaient vraiment pas contents de ce qui se passait dans les containers qui ont été installés pour recevoir 1500 personnes. Mais c'était tard. Et puis, du coup, ils devaient rentrer en laissant leurs empreintes biométriques. Et ça a été très, très difficile pour eux d'accepter ça. Et donc, du coup, en pleine nuit, ils sont allés saboter donc, un engin de chantier. Et ce cri a retenti suite à l'incendie de l'engin.
Et bien voilà l'interview d'Isabelle Grenet, la réalisatrice du film Fajara, donc un film documentaire sur la jungle de Calais, est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ses réponses et que ça vous a donné envie d'aller voir le film, au moins par curiosité pour ce qu'il a à évoquer, ce qu'il a à montrer. Donc n'hésitez pas, s'il passe en ciné-débat près de chez vous, allez le voir, c'est toujours un document intéressant pour un débat. Alors la musique, puisque vous le savez, sur Micro Rebelle, nous défendons les musiques libres. Vous avez écouté un morceau du groupe Disparition pendant ce reportage, c'était Mostar. Et on va se quitter avec un titre du même album, Palm in Mirror, et le titre c'est Citadels. Le générique de l'émission reportage, c'est un extrait de la chanson Agony du groupe Neat Beats sur leur album Alternate Soundtrack to Un Chien Andalou. Et bien moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain reportage pour Micro Rebelle Hebdo, qui je vous le rappelle est diffusé tous les mardis en direct sur Radio PFM à 15h et en rediffusion sur notre site internet microrebelle.fr. Où vous pouvez retrouver toutes les émissions de Micro Rebelle Hebdo ainsi que toutes nos émissions web. Voilà, à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, ciao !